Bon, le Canadien a gagné hier. Oui. C'est la première des 17 victoires nécessaires pour faire les séries.
17-1-2 avant le match d'hier. C'est voilà. L'affiche que le Canadien doit conserver d'ici la fin de la saison.
Mais là, on va écouter notre ami Martin McGuire, qui, vous le savez, est toujours enthousiaste et toujours passionné quand il décrit un but.
Jarrett n'a pas juste déjoué le gardien des Capitals là-dessus hier.
Oui, écoutez bien ça. C'est la première fois, je pense, que j'entends Martin être bouche bée devant un but.
Tire entre les défenses, il rate la cible. Rebond de la bande qui lui appartient. Domi. Reprend la rondelle. Remet dans l'enclave. Tire de Sherrod. Arrêt du gardien.
Non. Il a marqué.
Il a marqué! La lumière n'a jamais allumé derrière le gardien. Oui. Ben Sherrod donne la victoire aux siens.
Personne n'a vu le but.
Non, non, écoute, je te dirais que ça a été la même chose à RDS. Pierre-Houd a été déjoué lui aussi. Ce qui s'est produit, d'abord, un, la lumière rouge. Le juge de but n'a jamais allumé la lumière. Et deuxièmement, il y a des coussins. Là, c'est un tir bas. Et il y a des coussins dans le fond du filet qui sont installés pour protéger les caméras de télévision. Okay. La rondelle est entrée et s'est enfouie, là, c'est caché dans les coussins. Alors, plus personne ne voyait la rondelle. Les deux seuls qui savaient qu'il y avait un but, là, c'est Sherrod puis le gardien des Capitals de Washington. À part de ça, là, il y a eu ces quelques secondes de qu'il a fallu pour que tout le monde réagisse. Le Canadien qui l'emporte 4-3. Donc, Sherrod qui marque le but de la victoire en prolongation. On a marqué 2 dans la rencontre. Les autres sont allés à Weber et Gallagher. Ça met un terme à une séquence de 5 défaites consécutives du Canadien. Je vous le dis tout de suite, au classement ce matin, ça n'a rien changé. Toronto a gagné hier. Et pour les Capitals, notons le 699e en carrière d'Alex Ovechkin.
Le sport x10 avec Ray Lalonde.
Alors, c'était il y a 40 ans, à Lake Placid, les Américains battaient les Russes dans le match de demi-finale du tournoi olympique, en route vers une médaille d'or. C'est ce qu'on a appelé le Miracle on Ice. Écoute,
il y a eu un film là-dessus.
Oui, il y a un film. Écoute, là, c'était une équipe de joueurs issus des rangs collégiaux américains. C'était, là, comme on dit, là, une bande d'inconnus face à la puissante équipe de l'Union soviétique qui dominait le hockey sur la scène internationale. Et ça va nous permettre, avec Ray Lalonde, de parler de cet événement-là, parce que c'est devenu un événement important dans l'histoire du hockey aux États-Unis. Est-ce qu'on peut dire, Ray, que le hockey aux États-Unis est né cette journée-là, là, où les gens ont réalisé que ça jouait au hockey aux États-Unis cette journée-là?
C'est certainement le moment le plus dramatique de l'histoire du hockey. D'ailleurs, Sports Illustrated a déclaré en 99, à la fin du millénaire, là, que c'était le moment sportif le plus important des États-Unis.
Pourquoi? Pourquoi c'était plus important?
Parce que y a d'abord le côté patriotique. Le hockey était jamais un sport qu'on pouvait affronter le monde avec Team USA. En 80, là, après déjà 20 ans de domination des Soviétiques aux championnats du monde et aux Olympiques, les Américains composés d'une bande de gars pas connus, dans lesquels 12 ont atteint la Ligue nationale pas longtemps après, mais aucun ne jouait dans la Ligue nationale au moment où ils ont battu l'Union soviétique. Puis l'Union soviétique, c'était l'équipe qui avait affronté les Canadiens ici en 75, le 31 décembre. On se rappelle de ce match spécial, les gars de l'Armée rouge. C'était une équipe mythique parce que eux étaient des amateurs professionnels, si on veut. Et les Américains, sortis un peu partout des collèges, avaient réussi à faire tomber le mythe soviétique. Et ça a lancé... Bon, premièrement, ça a ralenti un peu le hockey russe soviétique. C'était en parallèle avec la guerre froide entre les Américains et la Russie. Ça a injecté une énorme confiance dans le hockey aux États-Unis. Le deuxième moment le plus important de l'histoire du hockey américain, parce que ce que je veux faire, c'est parler un peu de la culture aux États-Unis, l'histoire puis l'évolution du hockey. Ben, c'est en 88 lorsque les Oilers d'Edmonton ont échangé Wayne Gretzky aux Kings de Los Angeles. Parce que dans un marché non traditionnel comme la Californie, Wayne Gretzky est arrivé encore dans ses bonnes années et a contribué à lancer le hockey dans l'État le plus populaire, l'État le plus populeux des États-Unis. Et soudainement,
il y a
Californie,
un État du Sud, là.
Un État du Sud, au soleil, ce qu'on appelle le Sun Belt en anglais. Puis soudainement, le hockey aux États-Unis a profité de cette immense capitalisation, puis cette infrastructure en Californie, pour bâtir un réseau, puis là, de plus en plus de joueurs aujourd'hui, 30 ans après, sortent des rangs universitaires et sont nés en Californie.
Je connais, disait tantôt là, que le nombre de joueurs repêchés au Canada avait baissé 18 % puis ça va augmenter 18 % du côté américain.
Ouais, mais aujourd'hui, là, en 2017, Paul, il y a 3 ans, là, c'est la première fois de l'histoire que moins de 50 % des joueurs qui jouent dans la Ligue nationale actuellement proviennent du Canada. 24 % proviennent des États-Unis. La poussée aux États-Unis augmente. L'Europe est stable. Le Canada, ben, perd, c'est-à-dire qu'il y a moins en moins de pourcentage au Canada par rapport aux joueurs qui évoluent dans la Ligue nationale de hockey. USA Hockey, qui est la fédération, l'équivalent de Hockey Québec ou Hockey Canada, a vu ses chiffres augmenter là, depuis 1990, qui coïncide avec l'arrivée de Gretzky, de 197 000 joueurs à 560 000 joueurs inscrits. C'est une augmentation de 180 % dans la participation enregistrée. Ça, ça inclut pas les ligues d'adultes, les ligues de garage, les ligues de bière, puis tout ça, là. Ça, c'est des jeunes qui sont inscrits au hockey. Les Américains matchent le Canada au championnat du monde junior.
Mais je vais te poser une question, parce que là, si tu parles de ceux qui jouent au hockey là, oui. Dans différentes ligues...
Ben, qui sont inscrits officiellement.
OK, qui sont inscrits. Est-ce que l'intérêt public en termes de cote d'écoute à la télé, c'est en hausse? Est-ce qu'il y a dans des marchés là, qui ne sont pas traditionnels, comme Boston, New York, Philadelphie, mais je pense à Nashville, oui. Je pense à des Columbus...
C'est très pertinent, Paul, puis tu fais bien de le dire. Le hockey demeure le sixième sport en popularité.
Okay.
Derrière le football pro, baseball... football collégial, course automobile, basketball.
La course automobile, on parle de NASCAR.
On parle de toutes les courses automobiles, les Formule Indy, ainsi de suite. Mais c'est pour vous dire que le hockey est encore loin derrière en popularité. Mais quand Gary Bettman est arrivé, Paul, en 1993, la business de la NHL, c'était 400 millions aux États-Unis. Aujourd'hui, c'est 5 milliards. Gary Bettman, avec 7 équipes d'expansion aux États-Unis depuis son arrivée, est aussi un responsable de cette évolution et cette croissance forte aux États-Unis qui fait que les jeunes Américains sont capables de jouer avec les jeunes Canadiens à talent égal.
Et le résultat, c'est qu'Austin Matthews, qui a été un premier choix au repêchage, vient de Phoenix. Tu regardes au tournoi Pee-Wee de Québec actuellement, Las Vegas a une équipe. Tous les marchés non traditionnels ont une équipe au tournoi Pee-Wee qui est dirigée très souvent, par d'anciens joueurs de la Ligue nationale qui ont évolué dans ces marchés-là, qui demeurent là après leur carrière et qui prennent en charge le programme de hockey chez les jeunes.
Merci. Bon week-end. On vous retrouve lundi, 8h24. Merci.